Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Henri Mouangnoc, je suis économiste et vous m'avez invité comme membre du Conseil national du Parti Socialiste et délégué national à l'économie.
J'étais encore une fois en train de me dire diantre. Alors la dernière fois qu'on vous avait reçu à Dessous, c'était juste après le référendum pour lequel vous étiez plutôt pour le non. Et puis à l'époque, vous n'aviez pas forcément dit du bien de vos petits camarades du Parti Socialiste, enfin plutôt de ceux qui sont majoritaires. Il y a eu une contribution qui a été présentée au congrès de... Je vais avoir oublié où c'était ce congrès.
Au congrès du Mans.
Au congrès du Mans. Une contribution qui était la motion numéro 5. Et moi, j'en ai pensé le plus grand bien. Je n'ai pas absolument tout lu, je l'avoue. Mais en tous les cas, il y a toute une... En particulier, toute la première partie qui est vraiment une analyse de la mondialisation. Il y a des choses étonnantes, hein, une mise en cause de la libre concurrence. Enfin, des choses absolument... Moi, je me disais, c'est épatant, quoi. Ils disent la même chose que dans Dessous, pour ainsi dire. C'est chouette, hein. Et puis, finalement, horreur, consternation, stupeur. Je m'aperçois finalement que vous avez voté la synthèse. Alors, il s'est passé quoi, là?
Alors, la motion 5, pour que les auditeurs comprennent, est issue de la fusion de courants formant l'aile gauche du Parti Socialiste, qui était NPS, Nouveau Parti Socialiste, et la plupart des militants de Nouveau Monde qui ont rédigé une contribution alternative socialiste, parce qu'avant les motions, il y a la phase des contributions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la motion 5 était pour la première fois peut-être la tentative de constituer une aile gauche conséquente du Parti Socialiste, puisqu'elle a représenté 25% des voix des militants, et donc avec un quart des militants, on pensait qu'il était possible de peser de façon importante sur la ligne politique du parti. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un courant a pesé 25%, c'est lui qui a fait le programme, hein. Chevènement, dans les années 70, avec le CRS, pesait 25%, c'est lui qui fait le programme commun. Et le programme de Chevènement s'applique quasiment à la lettre en 1981. Jusqu'en 83 où le virage, la parenthèse fait que Chevènement démissionne, quoi. Et ensuite, dans les années 80, c'est l'axe Rocard-Jospin qui pèse plus de 25% et qui, si on y regarde de près, fait la ligne politique de la gauche plurielle, sans Rocard certes, mais avec sa philosophie entre 97 et 2002. Et la nouveauté, c'est qu'avec 25%, ce qui vous a plu là dans la motion va peut-être pouvoir être incarné dans les faits en 2007. Quoi. C'est un peu ça l'enjeu du congrès. Et la synthèse, c'est le fait que dans un congrès, on définit une orientation politique et on regarde si tous les courants qui se forment à partir de la rédaction des motions peuvent s'entendre pour former une direction commune et mener le parti sur cette ligne-là. Alors, toute la question était de savoir si les points que nous jugions importants dans la motion 5 pouvaient être l'objet d'un consensus suffisamment important dans le parti pour que l'on puisse accepter, tout en y pesant avec 25%, d'entrer dans la direction du parti pour... appliquer cette ligne-là, quoi.
Pourtant, est-ce que ça veut dire pour autant que vous êtes en accord sur le... Comment on pourrait dire sur... J'ai dit dire le bilan, il ne faut jamais dire ça avec les socialistes, ça fait pas beau. Mais sur l'évaluation de la situation économique actuelle, en particulier de la mondialisation.
Bah, écoutez, moi je pense que mes camarades de la majorité, sans le dire, ont tiré un certain bilan du 29 mai. Il suffit de lire leur motion, c'était la motion 1, il y avait toutes les perches qui étaient tendues pour aller à la synthèse. Tout d'un coup, ils mettaient en cause la Banque Centrale Européenne, le pacte de stabilité, l'insuffisance du budget communautaire, l'absence d'harmonisation fiscale. Tout d'un coup, ils se sont prononcés pour l'impôt progressif, la hausse des salaires et... un secteur public conséquent, tout ce pourquoi ils n'étaient pas forcément favorables auparavant. Donc, à partir du moment où ils ont tendu les perches et que nous, on a enfoncé les clous, et que dans la synthèse, on a trouvé des choses très à gauche, hein, par rapport à ce qui se disait dans ce parti jusqu'alors, on aurait été idiot de ne pas chercher à rassembler la gauche sur cette ligne-là. Parce que le véritable enjeu, c'était quoi? Il y avait deux possibilités après la victoire du non. C'était soit présenter, enfin, soit s'orienter vers la présentation d'un candidat du non à l'élection présidentielle. Et dans ce cas-là, le scénario aurait été une scission du Parti Socialiste et l'aventure d'une recomposition de la gauche autour d'un pôle du non. Mais une aventure dont on ne sait quelle aurait été l'issue immédiate. Ça supposait à tout le moins qu'on perde en 2007. Une gauche divisée face à une droite arrogante, c'était à coup sûr une défaite et le pari de l'avenir, mais un pari sur une durée longue et une durée pendant laquelle la droite au pouvoir entre 2007 et 2012 aurait saccagé le pays et on ne sait pas dans quel état on l'aurait retrouvé. Et on ne sait pas quelle aurait été la gauche en face de cette droite-là en 2012. Elle aurait pu être complètement blérisée comme l'a été la gauche britannique dans les années 80. Donc, nous, la réflexion qu'on a eue, c'est, bon, puisqu'on a pu enfoncer les clous, puisque tout le monde, grosso modo, reconnaît que le 29 mai, il y a eu un malaise populaire qui s'est exprimé dans les urnes, et qu'il faut peut-être y répondre, si on arrive à rassembler la gauche sur un minimum d'éléments programmatiques tout à fait simples, hein, que demande l'électorat de gauche aujourd'hui? Il demande tout simplement que on s'entende sur un candidat qui nous évite la division du 21 avril et que ce candidat soit porteur d'un programme qui contienne des mesures symboliques de gauche, tout simplement comme la défense des services publics, le pouvoir d'achat, l'emploi, une fiscalité plus juste et puis peut-être la relance du débat européen avec une Europe qui ne soit plus une Europe libérale. Bon, sur ces points essentiels qu'on a réussi à faire mettre dans la motion de synthèse, je pense qu'il y a matière à rassembler la gauche et à trouver des accords avec nos partenaires faisant que le 21 avril, il se déroule à droite la prochaine fois parce qu'ils vont se déchirer à deux ou trois candidatures à chaque élection et que la gauche puisse être unie autour de ce programme-là.
Des sous et des hommes sur Aligre FM, donc, et on est en compagnie de Lim Hong-Nok qui fait partie du Conseil national ou du Bureau national?
Conseil national.
Du Conseil national du Parti Socialiste. Alors, tout à l'heure, vous m'avez quand même un peu étonné. Effectivement, j'ai lu aussi un petit peu en travers la motion 1. Et effectivement, on a l'impression que, du coup, Hollande, brusquement, effectivement, un homme de gauche. Hein, ou quand vous dites, par exemple, que les gens qui étaient de la motion 1 ont pris conscience de ce qui s'était passé le 29 mai, on le prenne en compte. Moi, j'ai toujours un doute par rapport notamment à DSK, à Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'effectivement, il a renoncé à ce à quoi il pensait jusqu'à présent? Or, il ne mettait pas en cause ni la mondialisation, ni le libre-échange, etc. Donc, je ne sais pas, il a changé d'avis.
Mais il faudrait être aveugle pour ne pas avoir vu la composition sociologique du vote du 29 mai. Ce sont d'assez fins politiques pour observer que dans les bureaux de vote populaires où d'habitude les partis de gauche font le plein, bah ça a voté non. Ils sont obligés d'en tenir compte et ils existent parce qu'il y a derrière le suffrage universel. Alors maintenant, on ne peut pas reconnaître quand on est à leur place qu'on s'est trompé. Bon, alors on va le dire autrement, si vous voulez. Mais si vous lisez effectivement le texte de la motion majoritaire, bon, le premier réflexe de tous les militants quand ils ont lu les motions au moment du congrès, c'est de dire, ben, finalement, toutes les motions se ressemblent. Et alors, moi, j'ai beaucoup de mes camarades de l'aile gauche du parti qui sont amusés à mettre les arêtes dans les débats de congrès, à dire, bon, ben voilà, on n'est pas d'accord sur ça, ça, ça et ça. Mais enfin, bon, moi, j'avais plutôt tendance à leur dire, mais c'est une très bonne chose que les gens de la majorité reprennent nos thèmes, parce que le travail qu'on fait depuis des années est en train de payer. Nous sommes devenus la boussole de ce parti, et nous pouvons peser très fortement avec un quart du parti. Et le fait que l'on reprenne nos thèmes, bah, est plutôt un bon signe. Alors après, est-ce qu'on va à la synthèse ou pas? Bon, bah, toute la question, c'était de savoir si tactiquement on décidait d'aller rassembler aux élections, en sachant que jusqu'alors on avait offert un spectacle assez lamentable aux yeux de l'électeur de gauche, qui comprenait pas pourquoi les socialistes continuaient à s'empailler pour les présidentielles, pourquoi il y avait autant de candidats, pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des choses aussi bêtes que ce que demandent les gens aujourd'hui, l'emploi, le pouvoir d'achat, les services publics, un non à l'Europe libérale. Enfin bon, c'est quand même assez facile d'y répondre. Et un point positif, si vous regardez en détail la motion de synthèse maintenant, si on veut prendre les choses vraiment sérieusement, il y a des points qui sont quand même assez forts. Il y a l'idée d'un tarif extérieur commun, qui était rejeté jusqu'alors par la majorité du parti, qui a été intégré. Un tarif extérieur commun qui est un instrument de lutte contre les délocalisations. Il y a la mise sous contrôle de la Banque Centrale Européenne par le Parlement. Il y a la réforme du pacte de stabilité où là, alors là, c'est une petite touche, j'ai réussi à faire introduire quelque chose que personne n'a relevé, qui est le fait que l'on sorte du calcul des déficits publics les dépenses d'investissement et de recherche. Bon, ça c'est le truc keynésien par excellence qui permet de relancer la politique industrielle sans qu'on soit contraint par le pacte de stabilité. Bon, mais c'est quand même un point essentiel. Au passage, les Britanniques le font, hein. Ils disent pas, mais ils le font. Bon, nous, on a toujours eu scrupule à le faire. Bon, là, on va le faire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, sur la question des impôts, bah, tout le monde aujourd'hui est pour l'impôt progressif. Tout le monde paraît être, c'est pas écrit comme ça, mais tout le signifie dans l'émotion qu'il faille supprimer la prime pour l'emploi, qui est un impôt négatif visant à remettre en cause l'architecture de la négociation salariale et du système d'indemnité chômage. Tout le monde aujourd'hui est pour les augmentations de salaire, pour la nationalisation d'EDF, la relance de la politique industrielle, etc. Donc, à partir du moment où on s'entendait sur cette matrice-là, sur laquelle nombre de nos partenaires de gauche seront, je le pense, d'accord, bon, on avait possibilité d'être le moteur peut-être de la future union de la gauche, et c'est pour ça qu'on a fait la synthèse.
Mais on pourrait vous dire, mais cette motion de synthèse, finalement, on peut très bien l'avoir écrite et puis ensuite la mettre, je sais pas, pour caler le lit, quoi, une fois que les socialistes auront été élus, non?
Alors, ça, c'est une thèse parfois défendue par mes amis d'extrême gauche, qui ont une lecture très soviétique de la vie politique française, au sens où, pour eux, il y aurait les gentils révolutionnaires bolcheviques et puis les méchants mencheviks réformistes qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, finissent par trahir, quoi. Bon, c'est un petit peu court, et si vous regardez l'histoire politique de près, bah, vous vous rendez compte que la gauche a toujours appliqué son programme. En 1981, la gauche a appliqué son programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le programme de la première gauche, celle du CRS et du Parti communiste. Bon, il y a eu un choix fait d'ouvrir une parenthèse en 1983, mais entre 80 et 83, on a appliqué notre politique. En 97, la gauche a appliqué sa politique. C'était une gauche inspirée par le programme de la deuxième gauche de Michel Rocard, sans Michel Rocard, qui avait été évincé peu avant. Mais c'est l'axe Rocard-Jospin qui tient le parti. Et si vous regardez la période 97-2002, la gauche applique le programme de la deuxième gauche. Et puis, elle tient ses promesses. Elle fait les emplois jeunes, les 35 heures, la CMU. Puis elle fait des choses que défendait la deuxième gauche, mais que nous n'avions pas dit que nous ferions. Des choses telles que la baisse des impôts, l'épargne salariale, les privatisations, etc. Mais c'est le programme de la deuxième gauche. Bon, aujourd'hui, je pense que ceux qui seront aux affaires en 2007, s'ils sont de gauche, seront un petit peu tenus quand même par les accords qu'on aura passés avec nos partenaires et par l'engagement pris auprès des militants d'appliquer un certain nombre de choses. Charge à nous ensuite, en nous appuyant sur nos partenaires du mouvement social et des syndicats, de construire le rapport de force qui fasse que, contrairement à d'autres périodes, eh bien, la gauche ne change pas de cap.
Des souhaits des hommes, donc sur Aligre FM, et on est en compagnie de Lim Hong-Nok. Et ben justement, ma question portait là-dessus. Tout à l'heure, vous disiez, mais finalement, les gens qui sont de gauche, qui aimeraient bien voter socialiste, ils sont comme ça, tout étonnés. Enfin, ils rigolent quand on voit des socialistes s'empailler avec d'autres socialistes pour savoir lequel a raison ou tort, et en particulier pour choisir un candidat. Mais d'un autre côté, peut-être que vous allez faire rire au moins un certain nombre de d'autres, disons, partisans du Parti Socialiste, si on veut. Enfin, quand on voit que l'aile gauche s'est alliée avec une partie du Parti Socialiste que nous réprouverions. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais vous pouvez faire... comment on pourrait dire ? Faire douter, ne pas donner envie de voter pour le Parti Socialiste, à vous allier avec ceux qui peuvent sembler trop sociaux-libéraux, s'il faut parler clairement.
Il est vrai que l'aile droite du parti était pas forcément farouchement favorable à la synthèse. Certains d'entre eux réclamaient une clarification qui serait allée jusqu'au bout. À savoir, est-ce qu'il faut définitivement rompre avec l'esprit d'Épinay ou pas, hein ? La position de certains dans la motion majoritaire, c'était celle-là. C'est Épinay, c'est terminé, c'est ringard, c'est le vieux logiciel de la première gauche, il faut le jeter. Bon, d'autres pensaient au contraire qu'il fallait un nouvel Épinay, une nouvelle union de la gauche, autour d'un retour à des valeurs auxquelles le peuple de gauche, comme on dit, est plutôt attaché et qui s'est exprimé le 29 mai. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, si on veut gagner en 2007, on peut pas rester divisé entre nous et même avec nos partenaires, avec qui il y a encore plus de nuances que ça. Donc, ne pas faire l'impasse sur 2007, ça voulait dire prendre la perche d'être les moteurs de la synthèse puis de l'union sur des valeurs et des éléments de programme qui pouvaient être justifiés, tels que la remise en cause d'un certain nombre de révisions auxquelles nous avions adhéré pendant la période 97-2002. Il y a eu des dérives libérales. Bon, à partir du moment où implicitement on reconnaît que ça a conduit à une certaine ambiguïté auprès de nos électeurs et que on peut rectifier le tir, on aurait été incohérent de ne pas accepter la synthèse.
Admettons que Ségolène Royal soit celle qui sera candidate pour 2007, admettons, elle par exemple, mais enfin bon, il paraît que les sondages, enfin bref. J'ai cru comprendre que c'était M. Emmanuelli qui est chargé du programme du PS pour 2007, donc Ségolène Royal appliquerait un programme qui aurait plutôt été écrit par un Emmanuelli, à mon avis, qui ne sera pas extrêmement modéré.
Écoutez, moi je vais vous surprendre, le candidat pour 2007 m'est indifférent. Moi, ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir peser sur le programme. C'est que quel que soit le candidat, il soit tenu d'appliquer un programme, tout comme François Mitterrand, qui peut-être ne croyait pas fondamentalement au programme commun, a été tenu d'appliquer le programme, enfin les 101 propositions carrément dérivées du programme commun, d'ailleurs, entre 80 et 83, et tout comme Lionel Jospin a appliqué des choses auxquelles il ne croyait peut-être pas. Lui, qui ne peut pas être soupçonné d'être un tenant de la deuxième gauche, eh bien, a quasiment appliqué le programme de Rocard entre 97 et 2002. Ouais. Bon, alors, quel que soit le candidat, moi, j'espère qu'il soit le plus proche possible des idées que défend l'aile gauche du parti. Bon, je ne sais pas si nous aurons un candidat, d'ailleurs. On verra, le moment venu, quel est le meilleur moyen pour faire en sorte que nos idées deviennent majoritaires dans ce parti. Et elles sont en passe de le devenir, comme on l'observe dans la synthèse. Bon, à partir du moment où le parti et les accords avec nos partenaires se font autour d'un programme de gauche, je vois pas pourquoi on cracherait dans la soupe. Après, c'est pas une question de personne. Moi, je fais pas de la politique pour des personnes. Quelle que soit la personne, j'espère qu'elle sera tenue de respecter son mandat.
En tous les cas, du coup, vous pouvez, pour ainsi dire, enfin un des moyens pour peser d'un certain côté, enfin je veux dire pour les simples électeurs de base, ça serait de se fournir le futur programme pour ensuite être capable d'écrire aux députés et autres pour dire mais vous ne respectez pas les programmes. Il y a un moyen comme ça d'obliger le parti à suivre ce qu'il a dit qu'il suivrait.
La pression sociale, tout simplement. Moi, j'ai commencé à militer dans Attac et j'avais fait l'appel des économistes pour sortir de la pensée unique parce qu'il me semblait que nous avions perdu une bataille idéologique au cours de ces 20 dernières années. Les libéraux l'ont emporté parce que, entre autres, ils ont entrepris un lobbying incessant auprès des autorités politiques. Ça s'est fait par le MEDEF, ça s'est fait par des fondations idéologiques, ça s'est fait par des pressions médiatiques. Et cette bataille-là, idéologique, on l'a perdue en même temps que la bataille sociale. Et donc, c'est toute une bataille idéologique et sociale qu'il faut reconstituer. Et il faut un rapport de force qui fasse en sorte que, quand des choix décisifs pour le pays sont en présence des pouvoirs publics, ils puissent s'appuyer ou tenir compte de ce rapport de force. Et je pense que, en 1983, si les syndicats et le peuple de gauche avaient beaucoup plus manifesté son soutien et son attachement en direction de la politique menée en 81, il n'y aurait pas eu la parenthèse libérale de 83. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de fermer cette parenthèse. Et il faut que chaque citoyen, chaque militant syndical et associatif donne de la voix.
Eh bien, c'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Lee Mong-nok. Alors, je vous rappelle, qu'il a écrit un livre qui est absolument remarquable, qui s'appelle Refermons la parenthèse libérale, justement, c'était la finale de l'émission, et c'est aux éditions La Dispute. Et puis, je vous rappelle, par ailleurs, qu'on peut trouver sur Internet, et je le mettrai sur mon site, justement, la motion 5. Alors, par souci d'équité, je mettrai aussi la motion de synthèse. Bon, en tous les cas, la motion 5 a un certain nombre de parties, dont les premières, et j'ai cru comprendre que Lim avait eu une certaine part dans cette première partie, absolument remarquable, grâce à laquelle, à la limite, vous pourrez mettre en perspective pas mal d'émissions que nous avons pu faire ici à Des Sous et des Hommes. En tous les cas, la semaine prochaine, pour l'instant, l'invité est tout à fait mystérieux. Mais en tous les cas, j'espère que vous serez de l'autre côté des postes. À bientôt.